Ce n'est pas tous les jours que l'on a la chance d'échanger avec une pionnière. Marianne Grasselli-Meyer en est une. Cette fille des montagnes, comme elle se dit, sage aux cheveux blancs et éternel mouton noir en même temps, m'a transmis par son art de la reliance de précieux enseignements. La reliance, c'est la présence. Pas seulement par la pensée, mais par tout le corps. Ce serait cela, habiter une relation. Et y mettre de l'amour, vraiment. La médecine de Marianne, c'est la musique. Marianne est musico et écothérapeute, autrice, mère, grand-mère, femme, tout simplement. Et vous l'aurez compris, Marianne est aussi une sorcière. De celles qui assument leurs choix, de celles qui aident les autres à poser leurs intentions, de celles qui improvisent, qui laissent advenir sans préjugés du résultat, qui voient de la magie dans ce qui revient à soi, de celles qui refusent les cases et restent insaisissables, de celles qui vivent leur étincelle de vie comme une alliance avec le plus grand, de celles qui croient à la force initiatrice des femmes, de celles qui voient dans le sang de celle-ci le sang de la vie, une façon de tout lâcher, une voie pour se régénérer. Une sorcière qui fait de tout contact un lien sacré, quelque chose à soigner. J'y vois là une véritable voie pour l'écologie. Car pour moi, on ne peut pas parler d'écologie sans parler d'amour. Je crois qu'il serait temps que l'on se plonge sur cette piste sérieusement. Sans ricaner, sans juger, sans s'en séparer, comme si l'amour c'était le truc sympa à côté. C'est de tout cela que l'on parle avec Marianne dans ce nouvel épisode de Créez-moi sur parole saison 2 sur les sorcières. C'est délicieux, espiègle et joyeux. Et restez bien jusqu'au bout de l'épisode car une surprise vous y attend. Je suis Nathalie, coach et gardienne de l'écolieu Moulin du Rose dans le Finistère, un lieu ressource entre terre et mer où cultiver le vivant est notre première intention. Où l'on propose de passer de savoir à éprouver nos liens d'interdépendance que nous négligeons tant. L'époque convoque les esprits créateurs, les êtres décolonisés, à l'instinct libéré. Mon truc à moi, c'est de rêver le sauvage de ces humains-là, de les aider à déployer leur capacité à créer, à dépasser leur écho ou non anxiété, et à oser mettre dans le concret ce que leur âme vient leur souffler. Avec ce podcast, je partage les histoires de ces sorcières et sorciers. Mon ambition ? T'inspirer à toi aussi, créer à partir de qui tu es, à embrasser ta magie, ta puissance d'agir et surtout l'exercer. Car point de nouvelle société sans nouveaux humains pour l'incarner. Maintenant, décrochez vos ceintures, ouvrez grand votre cœur et vos écoutilles, et c'est parti! Bonjour Marianne!
Coucou!
Bienvenue dans Créez-moi sur parole! Je suis vraiment honorée, ravie, en joie de te recevoir. Nous sommes ici au Moulin du Rose, où tu es venue passer... tu es de passage. Honorée aussi parce que tu viens depuis la Suisse. Et c'est la première fois que nous avons une Suissesse, et même une non-française, au micro de ce podcast. Donc je suis doublement en joie. Nous sommes au tout début du printemps de l'an 2023. Donc sois la bienvenue.
Merci beaucoup Nathalie.
Alors, pour te situer, même si pour moi, tu es quelqu'un de connu, tu es quand même une figure publique, une écrivaine, j'ai envie de te laisser te présenter, mais vraiment à ta manière, avec ce qui vient. Qui es-tu, Marianne ?
Alors, tu m'as dit que j'étais une Suissesse, donc ça veut dire que je suis une fille des montagnes. du lac et des montagnes, je suis née à Genève et d'une famille de musiciens et... J'ai continué ensuite sur des études de musicothérapie et de pédagogie avant de, dans mon parcours de femme, de me poser la question de qui j'étais comme femme. Et de fil en aiguille, comme c'est souvent dans la vie, de femme, je suis venue à la nature, à ma nature de femme peut-être, en tout cas... Vers la nature. De la nature, je suis allée à la connaissance des peuples premiers qui m'ont offert d'autres visions d'être femme. Et ensuite vers l'écologie parce qu'on vit dans notre époque et puis que corps de femme et corps de nature, ça faisait complètement sens pour moi. C'était la même histoire, la grande histoire, la même histoire. Et puis donc je suis devenue aussi écothérapeute. Et... dans ce grand mouvement de l'écothérapie, J'y ai mis ma patte parce que c'était l'essentiel de moi, c'était de trouver du sens dans ma vie. Donc j'y ai mis la patte du sacré. Et parce que je crois que le sacré a toujours fait partie, ce plus grand que soi a toujours été compagnon de vie, ou en tout cas besoin de compagnon de vie, ce grand mystère, cette non-compréhension forcément de ce qui nous arrive et qu'il faut lâcher une fois. Donc tout ça a fait que peu à peu, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à surtout pratiquer avec les femmes autour de l'écothérapie, c'est-à-dire de retrouver ce lien avec ce corps, ce lien avec la nature. Et j'ai créé la formation d'éco-rituel où je t'ai rencontrée.
Tout à fait, j'ai été une de tes élèves.
Et puis plusieurs livres ensuite qui ont retraduit, qui sont de la transmission de ce parcours qui maintenant, ça fait 25 ans que j'ai pratiqué ça. Les personnes qui nous écoutent ne me voient pas, j'ai les cheveux blancs maintenant, donc je suis ce qu'on appelle une pionnière. Peut-être qu'on en reparlera de ce que c'est que d'être une pionnière.
Oui, il y a plein de choses dans ce que tu as dit déjà qui me semblent être chouettes à creuser. Allons-y directement, tu as parlé du mot sacré. Je pense qu'on peut facilement avoir une sensation, une vague idée de ce qu'est le sacré, mais je trouvais ça chouette de t'entendre sur le sujet. On en parlait aussi l'autre jour, et quelle distinction tu fais, par exemple, entre le sacré, le spirituel, et ou le religieux ?
Alors, je pense que j'ai commencé moi-même à m'intéresser à ce plus grand que soi à travers la religion, et je pense que c'est généralement le cas. Je ne dis pas forcément le cas, mais généralement le cas, parce que ça fait partie quand même de notre étape de vie, de d'abord être éduqué par l'environnement. Donc dans l'environnement culturel, il y a la religion de ce qui nous environne. Donc c'est par la religion d'abord, c'est-à-dire catholique ou protestant sur Genève, assez fortement. Donc les rites, on découvre, on est baptisé, on est confirmé, on découvre qu'il y a des intercesseurs, qu'il y a des prêtres, des pasteurs, qu'il y a des gens qui savent mieux que nous. Et je pense que j'ai fondamentalement une rébellion face à l'autorité imposée comme ça de l'extérieur. Et à l'adolescence, j'ai fait le pas vers la spiritualité, ou j'aimerais plutôt dire à ce moment-là les spiritualités. Parce que du coup, ça s'est ouvert. Enfin, imagine, c'était ces années-là, début des années 70. Donc, c'était la grande découverte de l'Orient, la grande découverte d'ailleurs de religions aussi, mais de religions qui n'étaient plus monothéistes. Enfin, c'était une sorte d'élargissement, d'ailleurs, qui n'était plus seulement masculin, un élargissement qui devenait aussi féminin, avec des déesses, avec des archétypes. C'était beau, cette amplitude, tout d'un coup, dans le religieux. Et puis, la découverte d'autres manières d'être en relation avec le plus grand, avec ce que je ne sais pas, mais que j'appelle, avec ce que je ne sais pas, mais qui me fait quand même appartenir au monde et à moi-même, avec ce que je ne sais pas et ce que j'aimerais savoir, mais ce que je dois aussi lâcher. Et tout ça, c'est ce mouvement d'aller-retour avec ce sacré. En fait, c'est un mouvement d'aller-retour, je sens. C'est une connexion, c'est une appartenance, mais c'est vraiment ce dialogue, en fait, au-delà de ce qu'on croit savoir. Donc ça a été vraiment le grand mouvement qui a commencé à mon adolescence, avec des découvertes aussi comme Durkheim, qui a été aussi quelqu'un qui a fait des liens entre l'Orient et l'Occident. Et puis après, peu à peu, est venu quelque chose de plus personnel, je dirais presque autant personnel que plus universel, qui n'est ni religion, ni spiritualité, mais qui est vraiment sacré, c'est-à-dire qu'il ne se s'insère plus du tout dans une tradition, mais qui est qu'est-ce que je fais moi avec ça ? Et donc je vais, moi, déjà me rendre sacré. Et ça, c'est la partie personnelle, la partie de ma biographie où il a fallu que je comprenne ce que c'est qu'être une femme, sortir des modèles et valider complètement cette petite étincelle de vie qui vit à l'intérieur de moi et qui est renouvellement d'alliance avec le plus grand. Donc du coup, j'ai l'impression après que tout est sacré, parce que moi je suis sacrée, si je suis sacrée, ça veut dire que je suis précieuse, ça veut dire que mon unicité, elle est valable, ça veut dire qu'il y a une étincelle de vie, voire peut-être ce qu'on pourrait dire une étincelle divine, une étincelle de quelque chose que je ne sais pas, mais qui me met en relation avec tout, avec la plante, avec la pierre, avec l'arbre, avec le ciel, avec cet endroit, avec toi, si je cultive ça, en fait, je suis tout le temps dans une présence sacrée. Mais on est dans une société qui nous sort de nous-mêmes, en fait, tout le temps, qui nous fait croire que ce qui est dehors est mieux que ce qui est dedans. Et donc,
qui sépare.
Qui sépare tout le temps, oui. Qui nous sépare. Qui nous sépare aussi. Qui nous sépare entre la tête et le corps, qui nous sépare entre l'esprit et la matière, qui nous sépare tout le temps. Et le sacré, c'est aussi, je pense que c'est bien que tu rappelles ça, c'est aussi cette unification, quoi. Alors, il y a dialogue, mais il y a dialogue parce qu'il y a reliance. Il n'y a plus seulement un esprit à quelque part, il n'y a plus seulement un corps à quelque part. C'est aussi ce remalaxage des deux ensemble dans lequel on se sent beaucoup plus unifié.
Justement, histoire de... Tu en parles un peu de notre société et du monde dans lequel on vit. Quelles lunettes est-ce que tu portes sur notre époque et comment tu la vis, cette époque, puisque tu en as traversé plusieurs. Comment tu vis cette époque-ci, toi? Et comment tu la comprends?
Ma fille m'avait dit une fois, mais maman, quelle chance t'as eu de vivre dans les années 70, dans ces années où rencontrer les autres n'était pas empreint de peur, où le monde n'était pas aussi insécure qu'aujourd'hui, où les relations sexuelles étaient bienvenues et c'était vraiment une manière d'être au monde avec l'autre. Et c'est vrai qu'il y a... Il y a eu quand même plusieurs avant et après. Et quand nous avons vécu cette grande non-relation en fait avec la pandémie, je me suis dit, voilà, c'est comme ce que j'ai vécu au moment du sida, de cette grande séparation d'entre les êtres, de ces grands jugements les uns contre les autres, de ces clivages incroyables. Dans les familles, dans les choix, dans les jugements des uns des autres, dans les prises de position que chacun doit avoir, qu'on doit absolument avoir, où chacun se resserre, en fait, se resserre et donc se sépare davantage, évidemment. Et ensuite, ce grand mouvement planétaire qui est... mais nous sommes tous unis, en fait, face à cette urgence climatique. Parce que c'est tous ensemble. Enfin, je sais pas où on irait si on n'est pas ensemble. Enfin, je veux dire, c'est notre terre à tous et on peut plus dire que c'est le problème des autres. On peut plus dire que ça se passe seulement dans le sud. On peut plus dire que la migration ne nous touche pas. On peut tout ça maintenant. On est complètement impacté en fait personnellement. Et donc, si on commence à être impacté, alors on va vouloir changer les choses. Parce que l'humain est ainsi fait que tant que c'est l'autre et pas soi, on ne bouge pas. Donc, plus ça va devenir venir nous toucher, plus la Terre va bouger pour nous ramener à l'essentiel et plus on va devoir être solidaire. Et donc je pense que moi j'aime pas l'idée, tu sais Nathalie, qu'il faut absolument souffrir pour apprendre. N'empêche que c'est quand même souvent comme ça qu'on avance. Donc il y a une grande souffrance en fait maintenant et qui dit souffrance dit traversée. Donc mon rôle d'ancienne maintenant, c'est plutôt d'essayer de donner confiance aux plus jeunes pour qui peut-être c'est leur première traversée, grande traversée planétaire. de dire, mais je le sais par ma propre vie, qu'une traversée veut dire qu'il y a quelque chose qui vient après. Mmh. Et donc, donner confiance qu'il y a cette résilience, donner confiance qu'on va vers quelque chose d'autre et qu'on y va, vraiment. Et que c'est juste la traversée qui est difficile parce qu'on ne voit pas toujours le bout de vers quoi on va. Donc, donner confiance aux jeunes aujourd'hui. Et puis, maintenant, un peu laisser faire quand même. Parce que, bon, je sais qu'il y a des mouvements de grand-mère en colère. Enfin, il y a des activistes grand-mère, tu vois.
Mais évidemment. Heureusement.
Oui, et puis Starhawk qui a été vraiment, voilà, une femme extraordinaire, une sorcière extraordinaire, activiste encore aujourd'hui et une grand-mère. Voilà, c'est aussi un de ces modèles de grand-mère activiste, donc je sais, mais en même temps, je sens que, en tout cas pour moi, dans ma personnalité à moi, c'est plus d'être en retrait et de dire allez-y, quoi. Mmh. Avec amour, allez-y.
Mmh. Allons-y, j'ai des frissons. Merci Marianne. Crée-moi sur parole, le podcast, parle de notre capacité à nous les humains. Ou peut-être même notre nature, à nous les humains, de créer dans la matière à partir de qui l'on est, de ce qui nous anime profondément, de ce qui nous rend vivants. Et donc c'était tellement logique de t'avoir à ce micro. Et quelle chance, cette capacité à faire le pont entre le visible et l'invisible, moi, me semble particulièrement vitale aujourd'hui. J'insiste sur vitale, non seulement pour s'épanouir en tant qu'individu, mais aussi pour changer de trajectoire collectivement. Car j'ai l'impression que quelque part, en tout cas moi c'est mon vécu, j'avais perdu la résonance avec le vivant. Et que pour citer une autre personne passée à ce micro, Opaline, je prenais tout ceci autour pour un décor. C'est donc à la fois de politique que l'on parle, au sens de la vie de la cité, mais aussi de magie, dans le sens de l'âme qui agit. Cette magie qui pose une intention et qui permet de bâtir dans cette direction. Et j'aime en particulier interroger les femmes, car je crois qu'elles ont un accès privilégié à cet invisible que nous avons tant nié. Alors Marianne, justement, toi qui aimes les mots, pratiques-tu la magie? Et si oui, quelle est ta magie ou quelle est ta médecine peut-être plutôt? T'en as un petit peu parlé, mais j'aimerais que tu ailles plus loin.
Ben, je pense que ma médecine, dans le sens... médecine comme l'entendent les peuples premiers, c'est-à-dire quel est ton talent que tu mets au service des autres. C'est comme ça, enfin voilà. Donc et ce talent est particulier à chacun. Et ce talent n'est pas sur une échelle, sur un curseur de plus ou moins utile, pas utile. Enfin, je veux dire, on a tous notre place, on est tous utiles là où on est, là où on nous place dans le monde. Je suis née dans une famille de musiciens, donc je pense que ma médecine, c'est vraiment la musique. Mais celle qui a été transformée, pas celle qui a été donnée, par le conservatoire, par les études, ça il a fallu lâcher. Il a fallu vraiment me déconditionner de ça pour improviser. Et je viens à l'improvisation parce que je pense que la magie a quelque chose à voir avec l'improvisation musicale. Ça va sembler bizarre, mais il y a quelque chose de... Il y a un thème donné, tu vois, il y a un thème donné. Si je regarde cet arbre-là qu'on voit par chez toi, on voit à travers là et on voit cet arbre. Si je m'approche de lui et que je sais tout de lui, finalement, rien va vraiment se passer. Il sait tout de moi, je sais tout de lui et bof, et alors ? Par contre, si je place une intention qui est un peu comme un accord de musique, tu vois, je veux te recontacter en toi ta grandeur, où j'ai envie de rencontrer en toi ta force d'ancrage ou d'enracinement, où j'ai envie de rencontrer en toi comment tu accueilles les oiseaux, etc. C'est comme un accord où trois notes composeraient, tu vois, sur un piano. Oui, il y a l'âme.
Alors quand on parle de musique, Bigoudi donne de la voix. On va laisser passer. Et ça fera partie du...
Complètement.
De la rencontre. Oh, vas-y, ça devrait aller.
J'aime. Donc c'est comme trois notes, tu vois, il faut une intention et après on laisse faire. Après on laisse les doigts courir sur le clavier, après on laisse la voix venir, on laisse le tambour jouer le rythme qui nous vient et quelque chose alors se passe dans la reliance. Mais on peut pas... il y a quelque chose avec la magie qu'on doit laisser advenir, qui peut pas être seulement ce qu'on a l'impression d'être, la potion qui va faire ça, l'attente absolument de résultat. Je pense que la magie a à faire avec l'intention, c'est-à-dire on pose quelque chose très fort et cette intention, elle vient, elle n'est pas superficielle, cette intention d'autant plus, elle nous est essentielle que ça va répondre. Mmh. Et ça répond toujours. Parce qu'on a oublié qu'on était unifiés, on a oublié que si on fait un geste, quelque chose vient à nous après ça, que si j'ouvre mon cœur, il y a quelqu'un d'autre qui l'entend, ce battement de cœur. On a oublié tout ça et donc du coup, on veut une sorte de médicament et on veut une sorte de magie qui fonctionne et qui est très organique, mais qui est beaucoup moins mystique. Enfin, je sais pas si je peux être dans une magie mystique, mais pourquoi pas.
Ça serait quoi une magie mystique?
C'est ça, c'est une sorte de magie improvisée, de la reliance, de je ne sais pas mais j'ouvre. Et alors je suis complètement touchée par ce qui me vient, non pas parce que j'ai fait, mais parce que j'ai lancé, ouvert et ce qui va revenir à moi. Mmh. Et la magie, c'est plutôt ce qui va revenir à moi.
J'aime beaucoup, c'est ce que tu disais aussi beaucoup dans la formation d'éco-rituel, et ça répond toujours. Ça répond peut-être pas ce que tu imaginais que ça allait répondre, mais ça répond.
Et c'est tellement bon parce que c'est notre séparation fondamentale qui crée toutes les souffrances existentielles, les dépressions, les burn-out, les... Voilà. Tout ça est créé... Enfin, si on regarde, toute maladie est en fait, quelque part, une séparation.
Et c'est une séparation entre quoi et quoi, pour toi ?
Alors, ça peut être plein de séparations. Ça peut être des séparations que le corps vit très fort entre ce qu'il a ingéré, par exemple, et ce qu'il doit redonner. Enfin, il y a des choses très... Si on réfléchit sur le mot séparation, il y a d'histoires entre le lien entre l'extérieur et l'intérieur qui ne se fait plus de manière harmonieuse. Et on va retrouver ça dans les maladies organiques, comme on va le retrouver dans les relations sociales, dans la communication, dans notre lien à ce qu'on en fait, nos métiers. Est-ce qu'on est toujours en accord? Est-ce qu'on l'est plus? Est-ce que le rythme de ma vie est équilibré entre le repos et l'activité? Tout ça, en fait, c'est du dialogue à nouveau, c'est de la reliance avec nos besoins, avec qui on est. Et dès que c'est oublié, ça crée la maladie avec un... Voilà, largement dit, la maladie, oui, la souffrance. Maladie. Oui. Mmh.
Merci pour ça. Alors, quand on pense magie, on pense aussi sorcière. Comment il résonne ce mot pour toi? Et te considères-tu sorcière? Alors, ou pas?
En tout cas, les autres me considèrent comme sorcière. Je crois que c'était il y a 2 ans, j'étais appelée en Suisse à faire un article dans un magazine, malheur, tout public, de genre tout public, tu vois, c'est-à-dire un magazine qui est lié à une grande chaîne de distribution alimentaire. Donc, vraiment, t'achètes ton poulet, tes frites et tu as le magazine, donc pour dire. Et là, ils voulaient faire un article sur la sorcière. Donc, ils avaient appelé ça la sorcière sort du bois, parce que ça voulait dire qu'il y a une sorcière qui se dit, enfin, qui ose dire. Alors, c'était joli, parce qu'elle était venue me voir, je crois que c'était en juin, quelque chose comme ça. Et elle avait voulu faire passer son article, et on lui avait dit non, il faut seulement quand c'est début novembre, parce que c'est Halloween, et c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir parler sorcière. Donc, C'était déjà intéressant. Et donc, je me suis vraiment questionnée à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on venait me chercher là? Alors, on est venu me chercher pour plusieurs choses. La représentation de thérapeute, c'est-à-dire de guérisseuse. La représentation que je faisais quelque chose en nature, avec la nature, qui est aussi une représentation de la sorcière. La représentation aussi de quelqu'un qui a eu des accidents dans la vie. Et donc ces accidents sont souvent des moyens d'être en lien avec du plus grand que soi. J'ai eu un accident de voiture avec un passage de l'autre côté. Voilà, des choses comme ça dont j'ai parlé, et donc ça a circulé forcément. Donc c'est comme si c'est un attribut à quelque part de la sorcière, qu'il y a quelque chose qui est un petit peu hors du commun. Et puis je pense que je suis un petit mouton noir, donc j'ai toujours fait un petit peu les choses à côté. Et ça fait aussi partie de la représentation de la sorcière. Mais ce qui m'a surtout impacté moi, c'est qu'après cet article, j'ai eu plusieurs coups de téléphone de personnes qui m'ont dit « Est-ce que vous pouvez faire ça pour mon compagnon ? Est-ce que vous pouvez faire ça pour ma fille ?» Et je me suis rendu compte qu'il y avait cette notion encore très, très vivante que la sorcière faisait de la magie pour manipuler, même au niveau positif, hein, je dis bien, pour manipuler en fait les énergies pour que quelque chose advienne pour les autres sans qu'ils soient partie prenante en fait. Or, la thérapeute qui est à l'intérieur de moi, évidemment, dit non. Elle dit non. Si je suis sorcière, c'est que d'abord j'ai fait des choix et que j'ai assumé mes choix et que je vais aider chaque personne à faire ses choix. Parce que quand même, la sorcière, c'était aussi celle qui aidait pour les avortements. Voilà. Donc finalement, elle était très indépendante. Elle est très indépendante. Et elle va aider les personnes à vraiment choisir leur vie. Ils veulent quelque chose pour leur vie et elle va les aider. Ça peut être aussi par des plantes, mais ça peut être aussi par des rituels. Ça peut être par des talismans. Elle va les aider à être complètement dans ce qu'ils veulent, alors que la société autour leur demande d'être autrement. Et donc je ne vais pas dire oui, parce que la seule chose que je peux dire, mais amenez-moi cette personne et puis qu'on voit qu'est-ce qu'elle veut vraiment dans sa vie. À ce moment-là, on peut faire quelque chose, mais pas faire à la place des autres. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de faussé.
Ouais, ça me semble fondamental, ça. Hein. C'est pas à la place des autres, c'est pas pour les autres, c'est en accompagnement des autres, ce qui est très différent.
Et c'est en totale liberté, en fait. Il y a quelque chose de très libre dans la sorcière, alors qu'il fait évidemment peur, mais très libre. Quand tu penses, elles ont fait les choix de ne pas se remarier si elles étaient veuves. Elles ont fait les choix, mais je peux dire la même chose pour des sorciers, hein, de ne pas s'être remariés, ou de rester célibataire, ou de ne pas adhérer à une religion, ou de ne pas adhérer à une société en se mettant hors, c'est-à-dire hors du village. Il y a quand même toujours un choix d'indépendance, parfois provoqué par la vie d'abord, mais ensuite vraiment de dire « Ah non, mais c'est pas comme tout le monde, il y a quelque chose que je peux faire moi, pas comme tout le monde. » Et ça, c'est quand même quelque chose de très très fort dans l'archétype de la sorcière encore aujourd'hui. C'est quelqu'un vraiment qui c'est une femme ou un homme qui vraiment décide de prendre la responsabilité totale de ses choix. Et ça, ça n'a pas beaucoup évolué dans la société, je veux dire. On n'aime pas les outsiders.
Je vois de quoi tu parles. Merci Marianne. En préparant cette interview, je suis tombée sur ces mots parlant de ta transmission. Ta médecine, c'est sur ton site. Et ça m'a marquée. Ça dit, ma transmission vise à l'universalité, à trouver des mots et des expériences suffisamment accessibles pour que chacun touche à sa grandeur d'âme, à sa légitimité d'être et de vivre en harmonie avec la nature et ce qui lui est proposé d'accomplir. En quoi c'est important, selon toi, que chacun, chacune touche à sa grandeur d'âme et à ce qui lui est proposé d'accomplir ? Autrement dit, qu'est-ce qui se passe si on passe sa vie sans ça ?
Ben, la vie se fait sans nous. Parce que la vie se fait quand même. tu nais, tu, enfin, c'est le grand cycle du vivant, hein, tu nais, tu grandis, tu te reproduis ou pas, mais tu es en société, tu mets ton activité dans l'utile, et après on te l'ôte, et après tu te déconstruis peu à peu parce que le corps devient plus fragile, et puis tu pars. Voilà, et moi j'arrive pas, enfin je pense que c'est dans mes cellules, je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent ne pas se poser des questions sur leur vie, mais je crois vraiment, je ne comprends pas, c'est comme une langue, tu vois, on me parle une autre langue quand on me dit que les gens se suffisent de grandir, de vivre des amours, de lâcher des amours, de reprendre des amours, de changer de métier, de reprendre un métier, d'être devant un petit écran, de boire ce qu'on leur dit d'informations, de se laisser avoir dans cette monotonie de la vie, mais auquel on donne sens par des choses artificielles. Et ça suffit, ça leur suffit. Je pense que ça suffit s'il y a eu quand même de l'amour. Là, il y a quand même quelque chose où je me dis, ok, peut-être qu'il n'y a pas de sens, enfin, peut-être qu'on ne donne pas forcément autant de sens que moi, qui me questionne depuis que je suis petite, mais en tout cas, il y a eu de l'amour. Je pense que vraiment, les personnes qui n'ont pas vécu d'amour ne sont plus là parce qu'elles n'ont pas supporté. De ne pas être entouré d'amour, ou de ne pas avoir reçu d'amour, ou de ne pas avoir pu donner cet amour qui vivait en elle. Lorsque j'ai eu, je te parlais tout à l'heure de cet accident de voiture où je suis passée de l'autre côté, on dit toujours qu'on revoit sa vie, effectivement, on revoit sa vie, mais ce qu'on revoit, ce que j'ai vécu moi, ce n'est pas tous les événements de ma vie, c'était les moments d'amour. C'est-à-dire les moments où j'étais sur les genoux de ma grand-mère et qu'elle me donnait une compote de pommes. C'est pas les grandes choses, mais c'est les moments où on était en contact avec l'amour. Et ça, c'est vraiment un enseignement que j'ai reçu de l'autre côté. Et je peux juste dire que ça, c'est-à-dire on est fait d'amour. Voilà, donc on vit que d'amour. Mais pas de sentimentalisme, hein, on n'est pas là. Mais si on n'a pas... Donc peut-être que des gens se suffisent, si je peux dire, de vivre d'amour. Mais alors, ils vont se souvenir de ça quand ils vont être, tu vois, des petits vieux, ou même s'ils sont très jeunes et qu'ils ont un accident de voiture et qu'ils s'en vont à ce moment-là, dans ce flash-là, ce qu'ils auront touché, c'est l'amour qu'ils auront donné ou reçu. Donc on ne peut pas passer à côté de l'amour, parce que sinon on n'est pas vivant. Mais après, le sens, le fait d'être vraiment éco-responsable, de s'inscrire dans le grand changement du monde aujourd'hui, bah, tout le monde ne peut pas, tout le monde n'y est pas, et c'est ok. Mais pourvu qu'ils aiment.
Alors pour toi, il y a aimer, et qu'est-ce que ça change d'aller toucher à sa grandeur d'âme, du coup ? Qu'est-ce qui se passe entre guillemets en plus ?
Ben c'est ce sacré, c'est cette reliance-là. On est soit des petits animaux accrochés à la terre, soit l'humanité à l'intérieur de nous a aussi grandi. Et je sais que ça devient très philosophique, et donc voilà, mais il y a une part de nous dans notre humanité, enfin quand on lit des textes qui disent, bon ok, on a été là pour nommer le monde, pas seulement pour être de ce monde, mais pour nommer le monde, en fait il y a quelque chose de nous de plus grand qui est de mettre de la relation, de voir les choses un petit peu depuis notre hauteur, d'être à deux pattes. Tu vois, on n'est plus à quatre pattes, on est quand même un petit peu plus...
On s'est redressé.
On s'est redressé. Et donc, si on s'est redressé, qu'est-ce qu'on en fait de ce redressement-là ? Et toutes les traditions nous disent qu'on a les pieds sur la terre et le ciel là-haut. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a un ciel, c'est-à-dire qu'on a un au-delà, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de plus grand qu'on peut toucher aussi, nous, parce qu'on s'est redressé. Alors soit on reste des animaux, soit on se redresse. Et dans ce redressement, il y a un perfectionnement de nous-mêmes, quelque chose qui s'affine en nous, qui se subtilise,
qui devient plus subtil.
Qui devient plus subtil en nous. Et ça, c'est bon quand on l'a touché. Parce que je crois profondément à ce qu'on est et à ce qu'on devient et à ce qu'on ne sait pas encore qu'on est en train de devenir. C'est-à-dire qu'il y a une forme de perfectionnement chez moi. Il y a quelque chose de l'ordre de... on est en mouvement, on est en évolution perpétuelle et on va comme ça vers quelque chose de plus subtil, de plus fin en nous que le ciel nous apprend pour dire que c'est là-haut. Après... Mon rôle à moi, comme éco-praticienne, c'est de faire que ça redescende.
Mais oui, on aime que ça redescende. Dis en plus là-dessus.
Ça veut dire que cette grandeur-là, ce toucher, ce subtil, c'est-à-dire j'appartiens à cette grande unité, j'appartiens au monde et j'appartiens à quelque chose de bien plus grand, à la grande vie. Et que je touche dans des tout petits moments comme ça de où je ne suis plus, finalement. C'est là que, quand on n'est plus, que ça vient. Et que ça participe, en fait, à faire que j'aime ce caillou sur lequel je m'asseye, que cet arbre est magnifique, que cette ronce est magnifique, que cette ortie est magnifique, et que j'y mets de la beauté du monde. C'est-à-dire, tout ça crée, en fait, finalement, la beauté du monde. Ou le réenchantement de la nature. Et ce n'est pas de l'au-delà, c'est là, juste là, maintenant. Et c'est profondément touchant et d'être ainsi profondément touché par la matière, alors qu'on a cru, voilà, on nous a fait croire très longtemps que c'était sale, que d'ailleurs la femme aussi. Oui, que c'était sale, que c'était obscur, que parce que c'était obscur, donc pas éclairé finalement. Mais c'est qui éclaire, c'est nous parce qu'on y va. Une grotte reste toujours obscure jusqu'au moment où on met une torche et qu'on y découvre ce que des êtres il y a des millions d'années ont écrit et dessiné et donc l'origine. Oui, l'origine. Donc on découvre qu'on fait partie d'un grand monde, d'une grande histoire.
Et merci pour tout ça, c'est super inspirant. En quoi toucher à cette grande histoire et la ramener sur Terre, selon toi, c'est important aujourd'hui ? Peut-être encore plus important. Enfin, est-ce que tu penses que c'est particulièrement important aujourd'hui ? Si oui, pourquoi ?
On a objectivé le monde, on a fait de la nature un objet, un décor, on a fait des êtres humains des objets aussi, et pas seulement les femmes, mais les hommes et les enfants, et de plus en plus les enfants aussi. On a fait de l'utilisable et du jetable, mais on a plus mis d'amour du tout là-dedans. Finalement, comme on dit, tu sais, quand tu utilises quelque chose et que c'est pas recyclable et que tu es obligé de jeter pour racheter, etc., ce grand mouvement-là du consommable, c'est la même chose avec les êtres humains. Tout est devenu comme ça, donc on ne s'y attache pas. Puisque de toute façon, c'est remplaçable. On ne va pas s'y attacher. Alors, du coup, pourquoi s'attacher aussi à notre paysage ? Pourquoi s'attacher à... On ne sait plus la durée des choses. On ne sait plus que cette nature, elle va rester après nous. On utilise et on jette. On utilise et on jette. On utilise les relations, les gens, on utilise la nature, on utilise notre planète. Sauf que, voilà, à un moment donné, on s'est quand même rendu compte qu'on y vivait et qu'on était en train de casser la branche sur laquelle on était assis. Si tu ne mets pas d'amour, si tu ne mets pas d'attachement, si tu ne mets pas ce lien-là, tu peux te défaire de tout. Si tu commences à te rendre compte qu'il y a vraiment un lien... alors tu prends soin. Tu peux prendre soin que de ce que tu as senti, avec lequel tu étais en contact. Donc si on a perdu le contact, c'est égal, tu vois. Mais oui, parce que voilà, ces grandes mers polluées de plastique, c'est à la télé. Tu vois, c'est de nouveau l'autre. C'est, voilà. Donc je pense que la nature, malheureusement, les grands éléments qui constituent la nature, le feu, la terre, l'eau, l'air, tout ça va nous rappeler qu'on est vraiment en lien et qu'il va falloir...
Y mettre de l'amour.
Parce que si on y met de l'amour, on en prend soin.
Moi, j'adore ce que tu dis parce que ça veut vraiment dire que quand on parle d'écologie, on doit parler d'amour.
Oui.
On ne peut pas parler d'écologie sans parler d'amour. Ça commence par là.
Moi, j'y crois complètement. Moi, j'y crois complètement.
Ok, merci pour ça. Marianne, tu t'adresses beaucoup aux femmes. Je l'ai vécu. Alors, je ne sais pas exclusivement, car dans la formation où j'étais, il y avait un homme. Mais les humains à qui tu transmets semblent être essentiellement des femmes, tu me diras si je me trompe. Tu utilises d'ailleurs ce terme magnifique dans un livre de toi que j'adore, Le réveil des gardiennes de la Terre. Alors pourquoi les femmes comptent-elles, selon toi, peut-être apporter, réparer, soigner, accomplir? Pourquoi les femmes?
Alors, comme thérapeute et comme accompagnante, celle qui avait besoin de se bouger, celle qui avait besoin, quand j'ai commencé de pratiquer, mais ça dure. celle qui se questionne, celle qui vient changer quelque chose, celle qui se dit, mais j'ai peut-être besoin de quelqu'un d'autre que moi-même pour faire bouger quelque chose. Donc, qui sortent de cette... qui osent leur vulnérabilité, qui osent dire, j'ai besoin de l'autre. Je pense que c'est toujours plus les femmes. Mais peut-être parce que vraiment, être entre femmes, se raconter, se donner les bons trucs, les bonnes astuces du quotidien, ça a toujours été là, tu vois. Mm-hmm. Donc oui, je peux m'appuyer sur une autre personne pour me faciliter la vie. Je pense que ça fait vraiment partie de nos gènes, de notre capacité d'adaptation aussi. Et puis après, alors, il y a la grande question du care, c'est-à-dire la grande question, est-ce que la femme prend soin plus? Est-ce que parce que la femme est maternante, maternante, elle prend donc beaucoup plus soin de ses enfants, donc de la nourriture, parce que, donc elle est déjà beaucoup plus liée à la terre. Est-ce que femme plus liée à la terre parce qu'aussi sa cyclicité menstruelle, qui fait que son corps change, que son corps saigne, que son corps est dans le cycle du vivant déjà par nature. Mais là aussi, il y a énormément de femmes depuis la contraception qui n'ont plus du tout de ressenti différencié avec leur corps. Donc c'est aussi un réapprentissage. Donc oui, la femme, elle est gardienne de sa couvée, de son lien à la nourriture, à la santé, beaucoup, à l'éducation, forcément, en tout cas cette première éducation, du lien du tout petit enfant. Tu découvres le monde avec ta mère, après tu apprendras à agir dans le monde avec ton père, mais tu découvres d'abord, premièrement, l'espace des femmes. Donc voilà, elles couvent, elles maternent, elles prennent soin et elles sont d'une réceptivité beaucoup plus grande aussi, je pense, du part de ce grand mouvement du cycle menstruel, où il y a vraiment comme des initiations régulières qui se passent à l'intérieur d'elles-mêmes pour des moments justement un peu mystiques où le corps est fatigué, où le corps est débarrassé de son quotidien, où il faut vraiment juste relâcher et rêver. Donc la femme est plus apte à ça, plus apte au changement, à l'adaptabilité, à la réceptivité et au nourrissage d'une manière générale. Mais il y a des gardiens, il y a aussi des gardiens, il y en a de plus en plus, je peux te dire, d'une année à l'autre, d'une formation à l'autre, typiquement.
C'est ce que tu constates. Ouais.
Je vois. Cette année, il y a vraiment plus d'hommes. Il n'y a pas encore la parité, mais il y a plus d'hommes. Mais bon, c'est dans un... c'est dans ce cercle justement du sacré, tu vois, où on va accompagner le sacré, les passages de vie et tout. Et peut-être que les hommes ont beaucoup fait ça. Il ne faut quand même pas oublier qu'ils ont été des prêtres et que tout ce qui était religieux, c'était eux. Et maintenant, ils sont un petit peu plus dans tout ce qui est du lien à la démocratie, à la citoyenneté. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gardiens de la terre qui sont dans ce mouvement-là. Donc, comme si les rôles un petit peu se séparent, mais qu'on est complémentaires. Mais je trouve beaucoup, beaucoup d'hommes dans le mouvement écologique et dans le lien à ce changement actuel. Ils font vraiment leur part, là.
Oui, et c'est très enthousiasmant. Justement, pour poursuivre un peu sur ce sujet-là, tu as écrit « Le mode de pensée patriarcal a voulu nier la force qui palpite dans nos ventres de femmes, non pas seulement celle de l'enfant à naître, mais celle de l'énergie qui dit oui à toute création. Je continue à te citer, « Je salue la femme qui s'incarne en guerrière, luttant pour le désir d'avenir. Chacune a le pouvoir de créer plutôt que de refaire du même. Reproduire, c'est dévitaliser le monde. Amis femmes, je crée, nous créons, vous créez. » Bon, bah moi, j'adore. Cette force dont tu parles, il me semble que c'est celle de l'intuition. Pour reprendre les mots de Starhawk que tu citais tout à l'heure, cette puissance du dedans, cette voix du cœur, de l'instinct. Parfois, comme tu l'écris, ce robinet, et je le sais de mon vécu aussi, ce robinet, on le laisse se couper, replié sous les humiliations et la violence, oublié à force d'adaptation incessante. Tu dis que la vie nous apporte ce qui est utile pour nous redresser. Alors, on a déjà utilisé ce verbe tout à l'heure. Ce serait donc politique de nous redresser, nous les femmes, et pas seulement un acte de développement personnel pour toi, Marianne ?
C'est un acte d'humanité. Alors, si le politique, c'est faire qu'on vive ensemble en humanité, alors oui, c'est un acte politique, parce que je ne crois pas que les politiques, les gens qui font politique ont vraiment cette notion-là, vraiment en eux, profondément.
Et si c'était le cas demain,
hein? Oh yes, oh yes.
Oh yes.
Donc, oui, créer. Je suis une artiste, je suis aussi une grande résiliente. Donc, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup d'obstacles, beaucoup de tombées où il a fallu remonter. Et je n'ai jamais créé du même à partir de là. Et la même chose en thérapie, quand tu suis quelqu'un, c'est la personne va tout au fond, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui veut naître. Donc, à quelque part, même la décroissance actuelle qui paraît terrible, c'est parce qu'il faut qu'on descende vraiment pour que quelque chose de nouveau... Tant qu'on n'est pas beaucoup descendu, à quelque part, on va s'accrocher encore un tout petit peu sur les parois en disant « mais je peux garder encore un petit peu de ça et je peux garder encore... » Et puis on va s'adapter, on va faire une sorte de melting pot, un peu de nouveau, un peu d'ancien, mais pas perdre quand même complètement nos repères et tout. Mais si la vie t'amène, ou si la nature, ou si la planète nous amène à vraiment devoir déconstruire encore plus, à un moment donné... il va falloir vraiment que quelque chose de nous... Enfin, il n'y aura plus d'autre choix qu'une nouvelle création. Ça ne veut pas dire que les personnes actuelles ne préparent pas ça, parce que c'est très important que lorsque ça se sera vraiment effondré, on parle d'effondrement hein, souvent, eh bien, il faudra déjà des gens qui vont pouvoir nous proposer quelque chose. Ça sera quand même super, ça, parce que ça se fait déjà. Mais pour l'instant, ça se fait encore comme si on allait éviter le pire, tu vois.
Ah oui, tout à fait.
Mais le pire va venir. Mais moi, je crois très, très fort à la force initiatique des femmes. C'est-à-dire... Alors, je vais dire quelque chose de très basique comme ça, mais le sang des femmes... C'est un sang de vie. Et donc, les hommes, quand ils saignent, ils meurent. Et la femme, quand elle saigne, et je le vois quand je vois des jeunes adolescents qui découvrent que leur petite copine a une culotte rouge ou un pantalon qui est rouge de sang, ils ont peur pour elle. Ils ne se moquent pas. En fait, ils se moquent parce que c'est une défense, mais ils ont peur. Ils ont peur qu'elle meure, en fait. Leur petite copine, là, qui est sur le banc d'école en même temps que... Parce que le sang est égal à la mort, à la blessure, à la souffrance. Or, le sang de la femme est un sang régénérateur. On saigne pour une nouvelle vie. Et je crois donc du coup que la force initiatrice de la femme maintenant dans la décroissance, c'est de dire aux hommes, mais vous savez, en fait, si on lâche tout, si on décroît, après ça se régénère. Parce qu'elle le sait pas avec la pensée, elle le sait avec le corps.
Et, oui.
Et l'homme ne fait pas cette expérience-là. C'est comme ça, il le fait pas, donc pour lui c'est le désastre. Pour la femme, si vraiment elle voulait être complètement dans son corps et dans ce que l'enseignement de son corps lui dit, de sa nature lui dit, elle a les forces de traverser tout ça.
Mais oui, c'est vraiment la force de cette nature cyclique. En fait, elle nous apprend beaucoup. Hein. Ouais, passionnant ce que tu viens de dire. Merci pour l'éclairage. tu dis aussi dans le passage que je citais tout à l'heure que tu as eu la chance de rencontrer des guides qui ont démaquillé tes yeux et t'ont permis de te revoir. Moi qui cherche mes guides en ce moment, en tout cas qui les appelle, peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus? Peut-être pas qui sont-ils, mais que t'ont-ils donné à vivre et revoir?
Alors, un de mes guides que je peux citer, parce que je l'ai cité plusieurs fois dans mes livres, c'est Luis Anza. D'ailleurs, tu trouveras à travers la voie du sentir quelque chose qui est de l'ordre de cette immanence, c'est-à-dire le lien du sacré par le corps, par les sens, et non pas seulement par une méditation, une extase, sortir du corps, mais plutôt un entrée dans le corps. Donc lui, il m'a beaucoup influencé, il m'a beaucoup interpellé parce qu'il a été un homme complètement libre, et donc quelqu'un qui se laissait absolument pas mettre dans une boîte. Et c'était très très étonnant parce que les guides, enfin les maîtres, on a aussi tendance vraiment de les mettre dans des boîtes. Et dès qu'il, en particulier dans ses conférences, dès que Luis Anza sentait qu'on le mettait dans une boîte, pouf, il faisait une pirouette. Donc il pouvait être excessivement charismatique, montrer énormément d'amour, il parlait beaucoup des femmes. Et puis tout d'un coup, il devenait vraiment odieux.
J'adore. Okay.
Mais vraiment odieux.
Pour sortir de sa boîte.
Mais brut. Tu vois, vraiment l'homme brut, vulgaire. Et du coup, ça te décontenançait. Parce que tu commençais... On fait ça toujours avec la pensée. On est toujours en train de saisir. Hein.
On plaque quelque
chose.
On saisit,
on dit « Ah oui, maintenant je l'ai compris.
Ouais.
Je sais qui j'ai en face de moi, comme je sais qui je suis. » On plaque, on saisit. Et après, on maintient, on en rajoute pour que ça colle vraiment. Et tout ce que la personne va dire, c'est vraiment parce que c'est elle. C'est complètement égotique. Donc lui, il m'a appris cette liberté. Donc on sortait, mais il nous a dit quoi? On ne sait pas. Mais c'est qui ce monsieur? On ne sait pas. Est-ce que c'est un chaman? On ne sait pas. C'est un peintre? On ne sait pas. Enfin, je veux dire, c'est incroyable, quoi. Cette liberté, cet insaisissable être qu'était Luis Anza. Et il m'a appris ça, cette liberté d'être insaisissable. Donc, des fois, j'aime beaucoup l'humour à cause de ça, parce que
mais oui.
Voilà, quand je me prends trop sérieux, je me dis, bon, j'essaye de me saisir moi-même. Et après, je pense, ah oui, on parle de la même chose, de saisir un beefsteak, en fait.
Dessus-dessous.
Dessus-dessous. Et non, ah non, je veux pas ça, je veux pas qu'on me saisisse. Oui, je sais. Enfin, du coup, je ne sais plus ce que tu me posais comme question, et c'est très bien. Donc, lui, il m'a guidée à être dans l'insaisissable. Après, j'ai eu des formateurs qui sont des guides, parce que pendant un temps, ils nous montrent un modèle de quelque chose. Mais même là, à un moment donné, je crois que dans toute formation, et c'est comme ça que je le sens aussi par rapport à la formation que je donne, le copier-coller, le reproduire n'est pas du tout intéressant. Non, parce qu'on oublie qu'on a quelque chose de particulier, une médecine particulière à offrir au monde. Donc oui, on trouve des modèles, une structure, on trouve, voilà, et après on y met toute notre richesse, et c'est ce qui fait que les gens viennent vers toi plutôt que vers une autre personne, ou vers une autre personne plutôt que vers toi, c'est égal. Et puis bah, là derrière, bah, y a eu forcément aussi des êtres moins incarnés ou qui sont devenus désincarnés et où j'ai l'impression qu'ils continuent d'appuyer, de me réconforter ou dans ce que je fais. Ouais, ça c'est aussi, ouais, ça fait partie des guides aussi.
Ils te parlent comment, ces guides désincarnés ?
Alors c'est souvent des sortes de rêves éveillés. J'ai l'impression que voilà, j'ai l'impression que je dors, mais je dors pas. Et voilà, ou bien des synchronicités. Je suis très très attentive. On parlait de magie tout à l'heure. Je suis très très attentive aux synchronicités. C'est incroyable, enfin.
Oui, c'est formidable. Ça guide.
Mais tu vois, ça dans les temps anciens, la synchronicité, on croyait que c'était les sorcières qui faisaient ça, quoi. Alors que les sorcières, elles t'aidaient, je pense, à poser des intentions, très clairement, pour que le monde y réponde. Mais après, il y avait un truc, un machin qui se passait, on disait que c'était elles. Mais non, c'était toutes les intentions du monde, et les mauvaises intentions aussi, des gens qui faisaient que ça se passait.
Les synchronicités, c'est un langage, donc.
Oh oui.
Dans la préface de ton livre, ce même livre, Le réveil des gardiennes de la Terre, Brooke Medicine Eagle a écrit « Chaque personne, chaque groupe doit trouver sa connexion profonde à la Terre et à l'esprit en pratiquant des cérémonies et un travail sacré en harmonie avec les esprits de sa propre Terre. » Elle ajoute « Lors de ces cérémonies, nous nous écartons de nos vies quotidiennes bien remplies afin de trouver du temps et de l'espace pour ressentir le rythme de la pulsation de la Terre, pour sentir les fragrances et les phéromones des choses vivantes qui nous entourent, pour être informés par plus grand que la vie humaine dans laquelle nous sommes immergés et pour laisser l'intelligence de notre place humaine se rappeler à nous. » Alors moi, je trouve ces passages vraiment très inspirants. Et j'aimerais les partager avec toutes et tous, et même avec les dirigeants de ce monde, surtout en ce moment, où les sujets de l'écologie sont pris par le prisme de la pensée plus que du sentiment. Marianne, toi, tu pratiques ce travail sacré dont on a parlé plus tôt. Qu'est-ce qu'il permet, ce travail sacré ?
D'aimer ?
On revient à l'amour.
Ben oui.
Tout simplement.
Tout simplement. Mmh. En fait, si je te dis tu es sacré pour moi, ça veut dire que je t'aime, en fait, que tu es précieux. Si je dis ce moment est sacré pour moi, ou ce lieu est sacré, c'est-à-dire que j'y ai mis de la présence, que j'y ai mis du... Oui, j'y ai mis ma présence, j'ai habité complètement ce lieu, j'ai habité notre relation. Mmh. Et je trouve que c'est précieux. Donc oui, c'est de nouveau de l'amour. Mmh. Et donc si cet instant est précieux, je peux le rendre précieux par y avoir laissé complètement la place. Enfin, il faut faire place en fait pour le sacré. C'est pour ça aussi que on cède par des livres, par un oracle ou quoi que ce soit. C'est parce qu'il faut à un moment donné quand même qu'on dise « Attends, là, il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête pour voir qu'est-ce qui est juste important là maintenant et que je ne suis pas juste cette petite fourmi qui part au travail. » Voilà. Je me redresse, je donne validité à qui je suis dans cet instant et à ce moment qui existe dans ce monde et qui ne reviendra jamais plus. Cet instant ne reviendra jamais plus. Faire de son corps un temple, faire de son lieu de vie un temple, parce que dans ce temple, dans ce sacré, ça veut dire j'y mets de la présence et j'y mets que du bien-être. Et ça, je peux le faire n'importe où. Je peux le faire n'importe où, à n'importe quel moment, mais il faut décider quand même. Il faut quand même décider de faire un instant de place.
Oui, c'est ça. Il y a une décision de se souvenir de ce qui est important et précieux, comme je disais. Mm-hmm. Mais même... Parce qu'on peut courir notre vie en oubliant complètement ça, en fait, ce que tu disais au début.
Oui, complètement. Et puis l'important, il faut encore voir que l'important, chaque moment est essentiel, est important. C'est pas important parce que ça. Enfin, je veux dire que c'est mieux que. Enfin, il n'y a pas une échelle de valeur de cette importance-là. parce que quand même, pour revenir à l'amour, quand on plonge dans le regard de notre amoureux, c'est un instant, mais cet instant, on a l'impression qu'il est complètement suspendu, quoi. Mmh. Parce que l'amour le rend complètement suspendu. Donc, le sacré, c'est aussi ce moment suspendu, sauf que c'est l'amour de la vie et pas forcément d'une personne, d'un objet.
J'ai envie quand même de te demander, toi, si tu croisais un grand dirigeant de ce monde, alors j'ai pas envie de dire une dirigeante parce que là, ce qui me vient, ce sont des dirigeants, mais tu leur dirais quoi ou tu leur dirais pas quoi ou tu ferais quoi en face d'eux si à la place de moi-même, c'était, je sais pas, Elon Musk, Jeff Bezos ou autre, est-ce que tu auras envie de leur dire quelque chose, toi ?
Je leur demanderais, je pense, mais c'est comment tu aimes la terre, comment tu aimes l'humain, comment c'est cet amour-là, parce qu'en fait finalement c'est des gens qui vont décider de comment quelle priorité donner à cet amour de la terre, ou est-ce qu'on va laisser une place à ça, est-ce qu'on va laisser la place à l'humain plutôt qu'au transhumanisme, est-ce qu'on va est-ce qu'on va laisser tous ces gens en colère ? Est-ce qu'on va laisser tous ces gens démunis ? Est-ce que... C'est quoi votre amour de l'humanité, en fait ? Parce que, voilà, si c'est l'amour de l'argent qui fait que vous êtes là, ou bien de l'importance de vous-même, ben vous n'êtes pas au service des autres, quoi. Vous êtes juste au service de vous, de vos copains, de... Voilà, mais ça s'est toujours vu, et ça fait grandir personne, donc... maintenant où c'est le bon contact là. Comment vous nous aimez en fait?
Tu crois que ça sert de diriger notre attention sur l'autre finalement, et en particulier ce que l'on dénonce? Tu crois que c'est un peu vain, dans le sens où on ne convainc personne et on ne transforme personne, on ne transforme que soi?
Moi, je crois très fort que la société, si elle peut un peu durer maintenant, c'est parce que c'est les petites gens qui vont se mettre ensemble. C'est les petites gens qui vont créer des écolieux, c'est des gens qui vont vivre des écovillages, c'est des gens qui vont se dire « Ok, laissons-les faire, parce que, mais nous commençons à vivre le monde de demain, parce que voilà, on va pouvoir après faire grandir tout ça. » Ça vient de la base. Je crois pas que ça vient d'en haut. Ouais. Ils sont hors réalité en fait. Ils sont ces grands dirigeants. Je crois qu'ils ne voient juste plus comment c'est. Ils ne savent plus. Ils sont élevés dans des cocons et dans des écoles cocons. Ils vont pas sur le terrain. Ou alors c'est des bains de foule parce qu'ils serrent les mains. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est très superficiel, donc voilà, à un moment donné, il faut que la masse critique qui vient d'en bas, elle devienne plus forte, et que ça soit des raz-de-marée, et on l'a déjà vu. On a déjà vu ça, on a vu que c'était même très très critique à un moment donné, et c'est, voilà, il faut juste observer que la pandémie est juste venue vider les rues juste après ça, alors que les rues se gonflaient de monde partout.
C'est vrai.
Partout.
Comme de par hasard.
Et c'est vraiment... Enfin, si on regarde ça un tout petit peu, on voit vraiment qu'une sorte d'aspiration. Tous les gens qui étaient dans les rues, ils ont été isolés dans leur chez eux. Et du coup, on a pu imposer d'autres règles, de nouveau assez strictes. C'est intéressant de voir tout ça. Donc moi, je pense vraiment qu'il faut que ça, voilà, que ça change depuis en bas. Bon, ça, les révolutions ont toujours fait tomber les têtes des grands, et c'est, voilà.
À nos armes d'amour.
Mais il faut s'aimer très fort, par contre. Tu vois, si on commence à si dans cette grande masse-là de gens qui montent en puissance, là, si on commence encore à se cliver, là, au milieu, à se dire, mais toi, t'as pas le droit de dire ça, parce que toi, t'es pas comme ça, et moi, j'aimerais avoir ma vérité, c'est seulement ma vérité qui compte, on n'y arrivera pas. Donc, il faut de l'universel. Revenons à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut quand même de l'universel pour qu'on soit une force suffisante, et que tout le monde ait le droit à être... Il faut trouver vraiment un terrain commun. Et non dans la différence, pas dans la différence, mais
pas dans la séparation.
Et pas dans la séparation.
Oui. Ok, merci. On arrive aux questions de fin. Je les appelle un peu les petites questions rafales, en référence à tout le vent que l'on a eu ces derniers jours ici dans le Finistère. Marianne, alors ce mot est intéressant. J'ai envie de te taquiner un peu là-dessus. Tu dis que tu es en retraite. Moi, je te vois super active. Comment vis-tu ce passage, sérieusement?
La retraite, c'est une retraite professionnelle. Ça veut dire que c'est... Il y a beaucoup... Enfin, je... Non, on ne va pas dire ça. Il n'y a pas... Je ne souhaite plus de contraintes extérieures. Or, dans toute vie professionnelle, même si on adore ce qu'on a fait, même si on est passionné par ce qu'on a fait, même, il y a forcément des contraintes extérieures. Et j'arrive à un moment donné où le corps aussi, il a plus envie, il peut plus forcer autant. Et puis alors, oui, vraiment, clairement, et tu vois, je fais le geste comme ça, non, non, non. Il y a vraiment un geste de « je ne veux plus de contraintes ». Mais je vais continuer d'écrire et je vais continuer de voir des gens et j'ai envie de partager. Mais pas de contraintes, juste de l'accueil, du plaisir d'être ensemble. Et si on ne me veut pas là, ben je ne vais pas y aller. Donc ça, c'est cette liberté de choix qu'offre la retraite. Mais ce n'est pas une inaction, au contraire. Mais c'est une liberté de choix. Et ça, ça c'est bon.
Oh, quelle chance ! Tu vas faire beaucoup de jaloux, c'est de jaloux. C'est un privilège, effectivement, dont tu peux jouir aujourd'hui, et tant mieux. Marianne, qu'est-ce qui te met le plus en colère ?
La violence contre les femmes, la violence contre les enfants, la violence contre les hommes, la violence de la domination. Donc la soumission dans laquelle doivent survivre certaines personnes. Ça me touche profondément, ça me désespère complètement à l'intérieur, ça me casse dedans quand je vois ça. Donc il faut du temps après de la colère, c'est le pendant de la tristesse, donc souviens des grands coups là, et après je tombe dans quelque chose de très triste. Et après, la résilience revient, où il me dit, alors, qu'est-ce que je peux faire et comment je peux aimer ça à nouveau et comment je peux m'approcher de nouveau de cette réalité-là. Mais ça me casse, ça me brise le cœur.
Qu'est-ce qui t'inquiète ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète aujourd'hui ?
Ben, un peu cette urgence, dans le sens que j'aimerais, évidemment, je suis quelqu'un de très actif, donc j'aimerais qu'à partir du moment où on ait pensé, que ça vienne dans la matière, quoi. Et j'ai l'impression que c'est très long. Alors, je dis très long, et puis dans l'inquiétude, peut-être que c'est trop long. Voilà, l'inquiétude, elle est entre très long et trop long. Est-ce que ça va suffire vraiment pour que ça fasse pas trop 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 de dégâts? On aime tous ceux qui nous aiment et nos proches et tout, et j'aimerais évidemment pas que ça touche trop tous ceux que j'aime, mais voilà, à la fois je sais que cette décroissance et ce vide, cette aspiration vers un rien qui nous amènera quelque chose de nouveau est indispensable, mais dire que ça ne m'inquiète pas, ça serait faux. C'est quand même inquiétant de voir comment on va le faire, et j'aimerais que ça bouge plus vite. Ouais.
Ce sera mon avant-dernière question. Y a-t-il un message avec ton oralité que tu aimerais passer pour conclure, quelque chose que tu n'as pas encore dit, quelque chose peut-être que tu n'as pas encore osé dire et que tu as envie de dire haut et fort là, à ce micro aujourd'hui?
Non, rien ne me vient là. J'ai l'impression qu'à travers ce qu'on a partagé, il y a beaucoup de choses que... Il y a beaucoup de choses que j'ai dites, et je pense que ceux qui écoutent, ils entendent aussi le relief derrière. Donc, ça serait comme redire quelque chose avec d'autres mots. Donc, je pense que voilà, c'est bien d'écouter plusieurs fois un podcast.
On est complètement d'accord. J'adore faire ça, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ce sera ma dernière question. Donc, comme je te le disais, donc Spinoza disait d'une certaine manière que pour développer sa puissance d'agir, il faut trouver sa joie. Donc, comment tu trouves ta joie et qu'est-ce qui te met en joie, toi, Marianne, le plus au monde?
c'est l'amour, oui. Et c'est le battement du cœur, c'est le tambour. C'est vrai que dès qu'il y a tambour, il y a pour moi quelque chose de très, de juste vital et de non explicable. Et la musique, elle a ça. qu'à la fois elle nous transporte et à la fois elle nous incarne et à la fois elle nous fait nous sentir vivants, elle nous sentir dans nos corps, mais en même temps elle nous transporte ailleurs. Enfin, je pense que tout ce que je peux dire là, si on peut le transcrire en musique et comprendre que c'est artistique finalement tout ça, dans le sens la musique, c'est à la fois c'est à la fois de la matière et de la non-matière. Donc, voilà, soyons musicaux. Voilà, soyons musicaux. Donc, c'est vrai que quand je joue du tambour, j'accède à ce moment, voilà, où tout est, et c'est tout est bien.
Est-ce que tu accepterais de nous jouer un peu de tambour ? On tente ?
On tente.
On tente. Je vais tenir ton micro. Merci Marianne. Aho,
aho.
Merci Marianne pour ce moment suspendu, pour cette ponctuation vibratoire qui finalement résume tout. Merci pour tes mots, ton ouverture, ta sagesse, ta transmission. Merci d'avoir traversé les âges. Merci pour ta joie d'avoir habité le moulin, d'avoir tout simplement été là. Ce n'est pas anodin de recevoir et d'interviewer ces enseignantes. Ce temps privilégié, cette intimité de quelques jours ensemble passés, ont permis cette relation de femme à femme non hiérarchisée, qui offre une nouvelle palette de richesses et de reflets. Je retiens de toi la puissance de la présence, cette façon d'être au monde en habitant pleinement nos relations, quitte, et peut-être surtout, à ce que ce ne soit pas policé. Ne serait-elle pas, finalement, là, la véritable résistance ? Pour retrouver Marianne, rendez-vous sur son site espritdefemme.ch. Vous y retrouverez tous ses ouvrages, livres, musique, oracles, soins et formations, dont celle sur les éco-rituels dont j'ai bénéficié. Nota bene, c'est à destination des femmes, mais des hommes aussi. Et si cet épisode vous a plu, mettez-lui des étoiles et des commentaires, et surtout partagez-le autour de vous s'il vous plaît. Ce n'est pas une formalité en l'air. Je fais ce podcast, comme la plupart des podcasteurs et podcasteuses, par passion, parce que j'ai l'envie, et peut-être la prétention, de porter ma voix, ma vibration. Mais c'est aussi une façon de faire connaître ma vision et mes propositions d'accompagnement ou de facilitation, au moulin ou ailleurs. Alors pour qu'il puisse durer, n'hésitez pas à le partager à qui ça pourrait parler. Sorcière, sorcier, redressons-nous. Osons vibrer ce que notre cœur sait, même et surtout quand ça déplaît. Kenavo et à bientôt.